album composé en 76 par Mort Garson, un album pour écouter les plantes pousser, Mother Earth Fantasia. Parce que ce soir, je rencontre quelqu'un d'autre qui écoute les plantes pousser. Ça se passe dans la galerie Artemisia de l'ENS et il s'agit de Vahan Sogomonian. Vahan, là, on est dans la galerie Artemisia où tu fais une résidence depuis combien de temps ?
Un mois.
Et il y a un objet qui m'a pas mal intéressé, qui est posé là, comme ça, dans la pièce. C'est un recueil de poésie qui n'est pas encore tout à fait fini, qui s'appelle Poésie souterraine. Et quand on ouvre ce truc, ben on voit des photos de toi dans une sorte de gros tunnel. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment ?
Ouais, alors il s'agit d'un souterrain qui est monté de la boucle. Et donc ces images-là, elles sont extraites d'un film que j'ai fait, qui est la première action que j'ai fait avant de, on va dire, pendant la préparation de ce livre. Donc un poème que j'ai peint dans un souterrain à la chaux en utilisant l'eau du souterrain pour la fabriquer. Et le poème, je l'ai écrit à l'envers, après l'avoir appris par cœur.
C'est lequel de tes poèmes que tu as écrit ?
C'est le premier, celui qui apparaît ensuite dans le livre.
Ok. Là, tu as mon jardin d'abandon, tu es sage, je te montrerai où sont les fourmis rouges. Quand le ciel se met à ne plus être, il fait beau mais pluvieux. J'ai fait un voyage interstellaire, j'ai ramené ces images de là-bas, je croyais qu'il y avait 3 transformations, alors qu'il n'y en avait que 2. On lui a dit que sa maman était au ciel quand on a remarqué qu'il regardait tout le temps le ciel. On a dû trouver autre chose dans le lieu de mes rêves. Il y a un grand lac. 14-08-2017. Pourquoi t'as choisi ce poème-là ?
Alors, j'ai choisi ce poème-là parce qu'il me semblait, à plusieurs endroits, parler de ce que j'allais faire. En commençant par le jardin d'abandon. Je me suis dit que c'était un bon endroit pour moi pour aller abandonner des mots que j'avais récoltés pendant un certain temps.
Enfin, c'est pas tant des images du monde que des souvenirs, j'ai l'impression, que t'écris dans ces poèmes, des pensées, enfin, des bouts de pensées que t'as pu avoir.
Alors en fait, c'est plus carrément des mots que j'ai entendus, que j'ai notés, en m'interrogeant sur, en fait, ce qui a quasiment le moins, ce qui fait le plus partie de nous, et ce dont on fait le moins attention, à savoir les mots qu'on prononce. Tu vois, j'étais à une époque où je me disais, il y a déjà tellement de choses dans ce monde. J'ai commencé ça il y a à peu près 11 ans, donc j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et j'étais là à me dire, il y a déjà tellement de choses dans ce monde que ça me semble compliqué d'en rajouter. Donc pour moi, à ce moment-là, ce qui m'importait, c'était plutôt d'aller prendre le pouls du monde. Et la façon que j'ai trouvée, c'était de utiliser des filets. Ces filets, c'était des mouchoirs en papier. C'est-à-dire que j'ai voulu utiliser quelque chose d'absolument banal et dérisoire pour aller capturer des choses qui sont absolument banales et dérisoires, qui sont les mots qu'on prononce, qui ont une espérance de vie infime. Ça veut dire que voilà, on va prononcer des choses comme ça toute la journée qui nous sculptent. On va raconter ben, pourquoi on est dans cet état, pourquoi est-ce qu'on est sensible à telle ou telle chose. En tout cas, on se raconte. Mais on en garde très très peu de souvenirs, ils partent aussi vite qu'ils sont arrivés, les mots. Et donc, j'ai développé cette pratique. Au moment où je lance cette pratique, pour moi, elle fait vraiment suite à Onkawara, par exemple, et au dead painting. Sauf que on n'est pas dans les années 70. Et que... donc moi, je mets ça dans des sacs de congélation avec un intitulé et une date, en fait. J'ai fait ça pendant des années. J'écris sur un mouchoir en papier, par exemple, je ne sais pas, je suis là. On est quelque part. Et j'écris ce qui se passe autour de nous, ou entre nous, sur un mouchoir en papier. Donc ça me met dans un double rapport à l'écoute. Matériel, puisque j'écris ce que je viens d'entendre, disons, dans le cas où tu te racontes. Et aussi un rapport de mémoire et, on va dire, d'agencement qui va m'être propre par rapport à mes intuitions, par rapport à... Et ensuite, je mets ça dans un sac de congélation avec un intitulé et une date. Et pour moi, c'était, on va dire, une technique de peinture minimale, dans le sens où elle est activée par la performance, à l'époque en tout cas, où j'engage cette pratique-là, et que je fais des lectures performatives de ces poèmes, et que ce qui m'importe, c'est que les gens aillent explorer dans leur imaginaire des choses qui ont à voir avec la figuration et l'abstraction. Ensuite, j'ai fait une installation aussi avec ces mêmes mouchoirs qui étaient équipés de petits haut-parleurs, qui étaient en rond comme ça. Et donc, chacun diffusait la mémoire qu'il contient. Pour moi, c'est vraiment très proche du travail d'On Kawara, sauf que lui, il résume l'acte à la date d'aujourd'hui. Ça renvoie vraiment aux questions de la création, qui a toute une filiation comme ça dans l'histoire de l'art. Et moi, y a un truc un peu du matériau et aussi d'une sorte d'émotion.
Ouais, t'es presque archiviste, des fois, j'ai l'impression.
Je pense que je dois hériter ça de l'art conceptuel. Il y avait une pensée comme ça de Jeff Wall que j'ai bien aimé. J'étais pas d'accord avec lui à plein d'endroits, et c'est très bien parce que ça te permet de savoir pourquoi, mais au bout d'un moment, il disait que l'art conceptuel, c'était le pendant du pop art, mais du côté des bureaux. J'ai trouvé ça très bien. Tu vois, c'est-à-dire que le pop art, c'est plutôt du côté de la publicité, de la bande dessinée, de tous ces trucs-là. Et que l'art conceptuel, c'est aussi populaire dans le sens où ça renvoie au quotidien des gens de l'époque. Et dans les années 70, aux États-Unis, le quotidien du gens de l'époque, c'est la photocopieuse, c'est les boîtes d'archives.
J'ai l'impression que t'imagines une sorte de zone invisible, zone interdite, dont t'aimerais faire émerger le sens.
Effectivement, une des spécificités de l'image, c'est de rendre des choses visibles. Mais elles ont aussi un lien très fort dans la façon dont on a commencé à en produire par rapport à des choses invisibles, notamment la mort. Et c'est le premier poème, je pense que tu as compris qui parlait de ça.
Oui.
Et quand je te parle de ciel et de choses de ce genre-là, il me semble que y a des enjeux par rapport à la mort de l'image aussi peut-être. Et puisque je viens de la peinture, qu'au bout d'un moment, je me suis dit la meilleure façon de peindre, c'est d'écrire, de façon à mettre les gens face à leur imaginaire. À la fois parce que je me sentais être dans un moment où j'étais un peu face à la mort de l'image, comme je me l'imaginais.
T'as senti une frustration dans la peinture qui n'arrivait pas à supporter?
Non, pas du tout. Franchement, j'ai jamais eu de frustration par rapport à la peinture. C'est même tout l'inverse. Je sais pas, c'est un peu peut-être délicat d'en parler parce que j'ai un rapport assez romantique à la peinture et je sais pas si j'assume à 100% mon romantisme, tu vois. Mais c'est vraiment... J'ai jamais eu de frustration à cet endroit et j'ai un amour immense pour la peinture d'un point de vue, on va dire, historique et personnel, donc...
Mais tu trouvais que la poésie permettait quand même de développer une branche que la peinture ne permettait pas de développer?
Pour moi, en fait, c'est de la peinture. Et c'est exactement la même chose. Et tu vois, ce poème-là, pour moi, je l'ai peint dans un souterrain. Je dis jamais que je l'ai écrit parce que c'était avec de la chaux et avec un rouleau de peintre. Et j'ai une tenue de peintre aussi pour le faire. Donc pour moi, il s'agit de peinture. Si tu veux, c'est un peu comme... Romano Palca, quand il peint le temps de la peinture. Tu vois ce travail? Ok. C'est donc un peintre, je pense, avec des pratiques très voisines de celles de On Kawara. Sauf que lui, ce qu'il a mis en place comme pratique, c'est de compter. Il a commencé à compter en peinture de façon à, on va dire... Travailler sur le temps de la peinture lui-même, le temps qui passait à cette pratique Et il a mêlé ça avec une approche photographique où à chaque fois qu'il a fini une pièce, il se prend en photo. Il a fait ça toute sa vie. Et donc, lui, il a utilisé des chiffres pour compter ça. Parce que ce qui l'importait, c'était sans doute le temps à travers les chiffres. Et je pense qu'il y a cette histoire de son temps propre. Et puis, bien sûr, c'est suffisamment abstrait pour qu'on ait de la place nous-mêmes pour penser à notre propre temporalité. Et peut-être, en fonction des gens, encore plus loin, tu vois. Et moi, j'ai utilisé le langage. J'ai utilisé le langage parce que pour moi, ça m'était naturel. Je suis d'origine arménienne, donc orientale, Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, il y a une habitude du langage de l'oralité. Alors, je ne sais pas si ça me vient de là, ou je ne sais pas si ça vient du fait que... Peut-être d'ailleurs. Mais en tout cas, effectivement, j'ai remarqué que j'avais de la sensibilité par rapport à l'oral, même dans les lectures. Enfin, je sais pas, je pense à des trucs là.
Dis-nous à quoi tu penses.
Je pense à un bouquin de Foucault qui s'appelle Le Beau Danger et qui est hyper court, qui est un entretien qu'il a eu, donc c'est de l'oralité, et qui était un peu, on va dire, de l'ordre de l'épistémologie dans le sens où il parle de sa pratique d'écriture. Le Beau Danger, c'est l'écriture. Donc ça, il y a encore un peu de romantisme là-dedans. Mais en tout cas, il essaie de raconter ce que c'est que pour lui d'écrire. Et voilà. On peut lire tous les deux.
Ok.
D'accord. Vous pouvez faire comme si ça n'avait pas existé.
Il me montre la simplicité, je pense trois fois.
J'apporte la complexité, je suis le fils.
Le bon sens des choses, on n'en a rien à foutre.
On va faire les formalités d'usage pour rentrer dans la zone interdite.
Il y a des forêts de champignons, des vaches.
Tout est fait pour assurer.
Cette terre a été triste trop longtemps. Pourquoi cette terre a été triste trop longtemps ?
Ça parle de Tchernobyl.
Champignons. Ok. Et vous ne vous... Ah oui, oui, t'as l'air assez lié à Onkawara, en fait. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait pas existé.
À la fois, là, pour moi, ça renvoie pas mal à Tarkovsky. Bon, bah, bien sûr, parce qu'il s'agit de... une sorte de zone. Et...
Ouais. C'est un stalker.
Il y a tout un truc avec l'état mental qui, je trouve, est super important. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'être dans de bonnes dispositions pour recevoir quelque chose. Tu vois, quand t'es arrivé tout à l'heure, t'étais dans ton truc, et puis moi, c'était pareil. On avait tous les deux des trucs qui nous avaient fait chier dans la journée. Puis après, il a fallu que j'aille régler des dates et tout ça. Et donc, il nous a fallu un moment avant qu'on puisse être en mesure de lire un poème tous les deux. Et voilà, ça fait partie des questions que j'ai essayé de pas mal explorer quand je montre une pièce, en fait. Que ce soit à travers... voilà, par exemple, il y a une petite zone, à mon avis, qui est très discrète. C'est celle tout de suite quand tu rentres. Et tout de suite quand tu rentres, tu vois, tu as un paravent qui dessine des formes noires. Et bah viens, si tu veux, on y va. Ça, c'est puisqu'on se parlait des lieux tout à l'heure. Donc là, on est comme dans une sorte de graine. Donc tout est très dense. Et tu vois, là, toutes les formes noires qu'il y a autour de nous, au plafond, sur le mur, dans l'espace, je pense que ça, personne ne le voit. Et que ça renvoie vraiment, pour moi, aux problématiques de l'art moderne. Des trucs très très silencieux comme ça, tu vois, des problématiques de forme en fait. Donc là, t'as des sorte de trapèze, on va dire. Là, tu as des cercles et en haut, des carrés de vide. En plus, là, on est dans... Tu vois, mais si on se met comme ça, c'est encore plus évident.
Ouais.
Et là, c'est un lieu de transit. Tu vois, c'est comme un couloir, en fait. Donc, personne ne s'arrête. C'est ça qui est super. C'est-à-dire que c'est un endroit, personne ne fait gaffe. Les gens, ils font pas gaffe. Ici, tu vois, le début, c'est une image. Et cette image-là, c'est une image du premier laboratoire que j'ai fait. Je l'avais fait dans la salle de bain de ma petite copine de l'époque. Ouais, un truc un peu de l'amour aussi. De toute façon, je sais pas si les gens le savent, mais ici, on se croirait un peu dans un sorte de lieu de striptease, ou je sais pas, tu vois, avec toute cette lumière rose.
J'y avais pas pensé.
Voilà, ça fait un peu Bangkok.
Ouais, vidéoclub.
Voilà, avec toutes ces plantes du trottoir.
Et parce que tu disais que toutes les plantes, elles viennent d'un moment particulier de ta vie, en fait.
Moi, j'ai voulu faire une sorte de pépinière de plantes de rue, mais j'avais aucune connaissance sur les plantes. Et donc au début, j'ai commencé avec mon intuition. Mais très rapidement, y en a certaines qui m'ont intéressé plus particulièrement. Et pour des raisons différentes. Par exemple, j'avais envie de trouver une datura. Je cherchais aussi une impatience de l'Himalaya. J'aimais bien cette idée.
On dirait une infusion yogi tea.
Bah non, c'est une plante qui est une plante qui vient de l'Himalaya, effectivement. Mais qui est une sorte de peste végétale, tu vois, qui se déploie un peu de partout. Donc, je croyais en avoir trouvé une dans les pentes de la Croix-Rousse. Il s'avère que j'ai cru ça pendant un moment, mais en fait, pas du tout. C'était du tabac. Donc, c'est celle-ci.
Donc, on a une plantation de tabac dans l'école.
Ça, c'est du tabac, ouais.
All right.
Et en fait, elles sont de la même famille, toutes les deux.
Datura et tabac.
Okay. Ouais. Donc, ça me plaît bien. Et effectivement, je fais des rapprochements ensuite, soit en fonction des lieux, soit en fonction des personnes. On ne peut pas s'empêcher de faire un petit peu d'anthropomorphisme, je pense, quand on a un jardin.
Ouais,
vraiment. C'est comme ça. Tu vas forcément... c'est des activités qui sont quand même pas mal méditatives. Et donc, il y a forcément dans les observations que tu en fais, où tu vas faire des associations avec des gens que tu connais ou des lieux. Celle-ci, par exemple, là... C'est du chèvrefeuille. Elle, je l'ai trouvée dans la rue où je suis né. C'est un pote qui m'a fait visiter... un mec qui aime beaucoup les plantes aussi. Et il m'a fait faire une balade. Qui s'est finie dans cette rue-là, qui est la rue où j'ai grandi quand j'étais gamin. Et donc, on a fini sur une plante comme ça, qui poussait dans une fissure de béton, qui est du chèvrefeuille, mais qui prenait tout le bâtiment. Là, je l'ai bien vu. Tu vois, il y a des moments, comme tu disais tout à l'heure, où tu es disposé à voir les choses. Et là, c'était le moment, quoi. Donc, il y avait le vent qui bougeait, qui le faisait bouger. C'était tellement beau. Donc, là, tu vois, il se met à pousser comme ça autour de la structure maintenant. Ici, là. Très étonnant, je trouve, comme façon de se déployer dans l'espace. On dirait qu'il a une tête comme ça qui part tout le temps de l'avant.
Et ce chèvrefeuille, il te fait penser à qui, du coup, à toi ?
Franchement, en vrai, pour être tout à fait sincère avec toi, il me fait penser un peu à la façon dont Miyazaki envisage les divinités de la nature. Moi, à ce moment-là où je l'ai vu, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, waouh, pour moi, c'était une divinité, en fait. Je l'ai vu là, à cet endroit-là, sur cet immeuble, et de partir de quelque chose de si petit, et de pouvoir avoir tellement de force et de souplesse, je trouve ça hyper beau, et je l'ai vu, on va dire, voilà, comme ça, dans son ensemble.
Merci, Van.